France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Redskins et punk, les bandes-sons antifascistes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et le fascisme sont vaincus, mais ne disparaissent pas, d'autant que le mot fasciste a pris un sens beaucoup plus large qui nous fait regarder du côté de l'Espagne de Franco, au Portugal avec Salazar, la Grèce des colonels, mais aussi dans nos démocraties. Parler de l'antifascisme et de son histoire, est-ce promouvoir les mouvements de gauche? Et non, en aucun cas, puisque le fascisme s'oppose aux valeurs de la démocratie portées tant par la droite que par la gauche. Redskins et punk, comment les reconnaître?
Êtes-vous punk? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaunes, verts ou rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation.
Le cours de l'histoire.
C'était Gérard Rolls en 1977. Jérémy Tremner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en études anglophones à l'Université de Lorraine. Nous avons une jolie description ici des punks, vous allez nous la commenter. Raphaël Beaufils, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sociologie, vous avez travaillé, c'est votre thèse d'ailleurs, sur la contre-culture punk et les skinheads en France. Dites-nous, Jérémy Tremner, alors, cette description des punks, parce que c'est vraiment comme ça que nous les voyons, le premier contact dans la rue, c'est dire, lui, c'est un punk.
Alors, au Royaume-Uni, le punk est né en 1976-77. C'est un mouvement assez varié, c'est à la fois un mouvement musical. On pense tout de suite à des groupes comme les Sex Pistols, au Clash qu'on vient d'entendre. C'est aussi un style vestimentaire, les vêtements déchirés par exemple. C'est les cheveux très courts. Donc le punk, c'est un phénomène qui est composé de plusieurs éléments et donc qui naît dans les années 76-77.
Et là, l'archive de 1977 évoquait des croix gammées dans cet accoutrement des punks. Alors là, nous touchons à quelque chose de complexe.
Oui, alors le punk, dans les années 76-77, n'est ni de droite ni de gauche. Par contre, les punks, ils aiment bien choquer la génération de leurs parents. Et en 1976, on est seulement une petite trentaine d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le meilleur moyen de choquer les générations de leurs parents, c'est de parler de la guerre, c'est surtout de porter des signes nazis. Donc on pense tout de suite à Sid Vicious des Sex Pistols, qui portait très souvent un t-shirt avec une croix gammée. On pense également à Susie, la chanteuse des Susie and the Banshees, qui portait souvent un brassard avec une croix gammée. Donc ce n'étaient pas des sympathisants néo-nazis. Pas du tout. Par contre, ils voulaient absolument choquer la génération de leurs parents, choquer la société, la société dominante de l'époque.
Oui, parce que c'est une histoire de génération. C'est-à-dire que dans ces années 1960-1970, particulièrement pour les punks, il y a encore des gens qui ont connu la guerre et qui ont porté d'ailleurs des idées fascistes. Et puis, il y a les nouvelles générations. Hein, Raphaël Beaufils, vous êtes sociologue, les histoires de génération, ça vous connaît. Non, mais vraiment, faut prendre cela en compte au moment de réfléchir à ces mouvements de punk, de redskin et de skinhead.
Oui, tout à fait. C'est vraiment au moment où il y a un import, notamment en France, de cette culture anglaise, ça va être des jeunes générations qui vont se l'approprier. Et il faut voir que il peut y avoir en effet des jeunes qui vont se l'approprier dans la transgression et la provocation, mais il peut y avoir aussi des jeunes qui sont de grandes banlieues populaires et des jeunes de la rue qui vont aussi porter quelque chose de l'identité de classe à l'intérieur de ce mouvement punk et puis de ce mouvement skin.
Oui, parce que toutes les doctrines, toutes les idéologies s'adaptent au contexte dans lequel elles évoluent. En l'occurrence, ici, bien sûr, le monde a radicalement changé dans les années 1970. Il y a ces phénomènes de migration. Et puis, il y a quand même les idées qui demeurent. Les années 60 en France ont été marquées par l'OAS, notamment. Ben voilà, là, on va retrouver, j'ai envie de dire, un fascisme traditionnel.
Oui, c'est ça. Dans la fin des années 70 et les années 80, il y a une forme de rebond. Dans les années 70, on peut rappeler que voilà, il y a une tentative de structuration de l'extrême droite avec Ordre Nouveau qui a tenté une percée, qui a vite été arrêtée, notamment par des actions antifascistes unitaires de la Ligue communiste révolutionnaire. Et donc, dans ces années 70-là, il y a Ordre Nouveau qui est dissous, il y a la Ligue communiste révolutionnaire qui est dissoute aussi. Et les années 80 vont voir une restructuration autour de Troisième Voie, qui est un mouvement radical, nationaliste et révolutionnaire qui porte... Là, c'est un mouvement qui est profondément raciste, qui est profondément colonial aussi, qui porte ce souvenir enchanté de l'Algérie française, et aussi le Front National, qui a des espérances électoralistes pour l'instant assez moindre dans les années 80, et des groupes violents comme le GUD, le groupe Union Défense, ce groupe d'étudiants d'extrême droite, qui existe déjà depuis la fin des années 60, mais qui dans les années 80 va recruter, justement en termes de génération, des jeunes de milieux populaires, ce qui est plutôt une nouveauté pour un groupe violent d'extrême droite de l'époque.
Avec quand même un autre élément à prendre en compte, c'est que le personnel politique dans ces années-là, de droite, hein, bien sûr, c'est un personnel politique gaulliste avec des résistants, hein, Chabandelmas, des antifascistes par l'action. Et on le voit bien ici qu'il y a ce mouvement porté par notamment la Ligue communiste révolutionnaire, mais pas seulement. Et c'est aussi ça qui nous permet de réfléchir à ce qu'est l'antifascisme. Ce n'est pas la gauche qui s'oppose à autre chose, ce sont des valeurs de la démocratie qui sont défendues par celles et ceux des fascistes qui voudraient les abattre.
Oui, c'est ça. On a vraiment une volonté. C'est pour ça qu'on parle de nationalisme révolutionnaire. C'est qu'il y a une volonté, d'abattre des structures qui existent et de s'opposer aussi, en effet, au grand souvenir de la résistance qui est encore présent et aussi à ce qui commence à se structurer comme un antiracisme très important parce qu'on a ces premières puis dans les années 80, deuxième génération d'immigrés qui vont vivre un racisme, une xénophobie latente dans la société française et qui vont du coup aussi ajouter ça à un socle de ce que doit être selon eux la démocratie en France.
Jérémy Tramner, que se passe-t-il au Royaume-Uni quand nous pensons non pas à l'antifascisme dans un premier temps, mais au fascisme. Parce que nous avons un pays ici qui a lutté, et quelle lutte, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, face à la volonté des nazis d'attaquer, et les bombardements, et nous le savons, malgré tout, moins de choses sur le fascisme en Angleterre. Et il y a une présence ?
Oui, dans les années 70, le principal parti fasciste, c'est le Front National, le National Front, qui puise ses origines dans le fascisme britannique des années 30. Dans les années 70, c'est un petit parti, et il n'a pas de députés, il n'a pas de conseillers municipaux. Le système électoral britannique est assez compliqué pour les petits partis. Donc en général, les petits partis sont laminés dans les élections locales et nationales. Donc le Front National, c'est un petit parti, mais dans les années 70, dans certaines élections, il fait quand même 15-20% des voix. Donc ce qui n'est pas négligeable. Et il y a aussi des militants du Front National qui participent à des agressions racistes et à des agressions de militants de gauche également. Donc c'est un petit parti, mais en même temps c'est un parti qui est très actif et qui a l'impression d'avoir le vent en poupe dans les années 70. Il faut quand même penser au contexte économique de l'époque. Donc il y a un gouvernement travailliste au pouvoir, le mouvement syndical est très fort au moment-là. Mais le Royaume-Uni connaît des problèmes économiques très importants. Le chômage commence à augmenter. Pour la première fois depuis les années 30, il y a 1 million de chômeurs. Et donc ça choque beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent que c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les jeunes vont se révolter? Est-ce qu'il va y avoir une révolution menée par les jeunes? Donc ça inquiète beaucoup de personnes. Donc une partie de la gauche, radicale qui est très inquiète. Donc on voit l'apparition de mouvements antifascistes dans les années 76-77.
Avec ici quand même la définition du fascisme. Parce que qu'est-ce qui différencie le fascisme d'un mouvement de droite nationaliste? J'entends la violence.
Oui, effectivement, donc l'extrême droite est violente. Donc ça c'est un point très important. Dans le contexte britannique, on a tendance à dire que l'extrême droite, c'est tout ce qui est à la droite du Parti conservateur. Donc le Parti conservateur, c'est le principal parti de droite au Royaume-Uni. Et tout ce qui est à sa droite, c'est l'extrême droite. Souvent, comme je disais, qui puise ses origines dans le fascisme des années 30, dans le mouvement British Union of Fascists, d'Oswald Mosley des années 30.
Avec en 1977, donc, et c'est d'ailleurs intéressant hein, de voir l'apparition d'un phénomène culturel sur une chronologie extrêmement précise, donc en 1977, l'apparition des punks.
Ils provoquent, par l'accoutrement et par le geste, ce sont les punks. Punk, ça veut dire paumé, raté, minable. Autrefois, c'était une insulte. Aujourd'hui, être punk, avoir l'air taré, c'est une aspiration. Objectif, choquer, et c'est un franc succès. Toute l'Angleterre se hérisse et renie ses enfants qui insultent la reine, bafouent les valeurs qui ont fait la Grande-Bretagne, ont le mépris aux lèvres, se rendent laids et sont aux yeux une provocation permanente. Le mouvement est né à coups de guitare. La pop musique était devenue trop sophistiquée, trop électronique, trop synthétisée et finalement inaccessible à l'esprit comme au portefeuille. Le punk rock, c'est le retour à la simplicité. Une musique brutale, violente, qui heurte. Il y a des micros dans la batterie et la sono est au maximum. Faire du bruit ne demande ni argent ni talent. C'est la raison du succès.
Le journaliste, c'est Claude Guénière sur la deuxième chaîne de télévision française en 1977. Et dans ce reportage, Jérémy Tremner, nous entendons bien qu'il y a la musique avant tout. Le mouvement est né dans la musique. Alors, est-ce le cas ?
Oui, enfin, au Royaume-Uni, oui, c'est le cas, c'est sûr. Donc, l'année 1976, voit l'apparition des Sex Pistols, bien sûr, et aussi des Clash et beaucoup d'autres groupes. En gros, il y a deux tendances au sein du punk britannique de l'époque. La première tendance, la tendance plus nihiliste, plus hédoniste, incarnée par les Sex Pistols. Et c'est les Sex Pistols qui lancent le slogan « No Future », donc dans la chanson « God Save the Queen ». La deuxième tendance, qui est plus positive, est incarnée par les clashs qui sont peut-être plus proches de la gauche radicale, les clashs qui ont une vision beaucoup plus positive de la vie. Les membres des clashs disent qu'ils sont contre la violence, contre le fascisme, pour la création, et véhicule des idées, des valeurs de gauche, de solidarité, par exemple.
Ils s'affirment de gauche ?
Oui, oui, oui. Par contre, ils ne sont pas du tout proches du gauche, du gouvernement. Enfin, non, c'est l'extrême gauche. Même si, bon, ils critiquent aussi l'extrême gauche. Mais ils se disent d'extrême gauche.
Bah, il faut bien qu'ils critiquent, sinon ils ne seraient pas punk, hein. Ça n'irait pas du tout. Raphaël Bouffis, est-ce qu'on trouve des mouvements similaires en France au même moment? Parce qu'on sait bien que tout ce qui vient du monde anglo-saxon dans ces années-là, et puis déjà c'était le cas par avant, inspire énormément.
Oui, tout à fait. C'est le mouvement punk en France, c'est avant tout un import depuis l'extérieur, et puis qui se construit sur une base quand même très importante de rock alternatif à cette époque-là. Donc, on a une grande scène rock alternative qui écoute avec une oreille intéressée ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aussi également en Espagne, en Italie, et qui va importer et va avoir ses propres groupes. Donc, dans les années 80, on va avoir des labels, on va avoir des festivals comme K.O. en France qui vont être des moments très importants pour cette scène nouvelle, et des groupes qui font la narration de cette transgression, de cette rébellion, mais qui est peut-être comme ça vient d'un rock alternatif un peu dur, un peu de la rue, des squats. En France, on va avoir des groupes qui parlent beaucoup de la galère, qui parlent de la drogue, qui parlent de la prison, des braquages, des choses comme ça. Ça va être le cas de Caméra Silence, mais aussi de d'autres groupes à ce moment-là, comme les Cadavres, les Rats ou des groupes comme ça, qui vont être très importants pour ce début d'un punk français.
Oui, parce qu'il y a plusieurs combats qui se mêlent, et je l'entends bien ici. Vous nous avez dit là à l'instant qu'il y avait la galère, donc il y a un aspect social de cette histoire-là. Jérémy Tremner, vous l'avez bien dit aussi, l'association d'autres idées qui sont associées, non pas à la lutte contre le fascisme uniquement. C'est en cela que le mouvement est intéressant et complexe, mais alors dans ce que j'entends ici, j'ai l'impression que par la musique se focalise la lutte antifasciste, peut-être en parallèle ou plus que ce qui existait par avant, hein, qui était une lutte syndicale, qui existe encore, antifasciste. C'est une nouvelle voie de l'antifascisme.
Mais en fait, l'antifascisme existe depuis, depuis les années 20, en fait, mais surtout depuis les années 30. Dans les années 30, une mobilisation très importante contre l'Union britannique des fascistes, Oswald Mosley en particulier. Il y a la grande manifestation de Cable Street en 1935. Donc, il y a entre 100 000 et 200 000 manifestants à Londres qui barrent la voie physiquement à une manifestation d'extrême droite. Donc ça, c'est peut-être l'acte fondateur de l'antifascisme britannique. Dans les années 70, les antifascistes sont assez actifs. Il y a beaucoup de manifestations. En 74, il y a même un mort lors d'une manifestation à Londres, un antifasciste qui meurt. Plus tard, en 79, il y a un deuxième mort, un manifestant antifasciste qui est matraqué par la police. Un enseignant néo-zélandais, Blair Peach, dont le nom est très, très connu au Royaume-Uni, même maintenant. Ce qui est intéressant dans les années 70, c'est la création de la Ligue anti-nazie en 1978, suite à une grande manifestation assez violente à Lewisham, dans un quartier de Londres. Et donc, ce nouveau mouvement est créé en 78. Son nom est assez intéressant, assez révélateur, donc la Ligue anti-nazie. Donc, dans la propagande antifasciste, le mot nazi, c'est un mot qui revient tout le temps. C'est peut-être une des spécificités britanniques par rapport à l'antifascisme français. Donc, c'est vraiment un mot qui revient absolument tout le temps. La référence à la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, c'est parce que l'expérience d'un Grande-Bretagne et de la Deuxième Guerre mondiale est assez particulière, assez différente de celle de la France. Le Royaume-Uni n'a pas été envahi, il n'y a pas eu d'occupation, il n'y a pas eu de régime autoritaire, fasciste. Donc, d'une certaine manière, c'est une expérience un peu positive, parce que le Royaume-Uni était seul contre tous. Ils défendaient l'Europe, enfin, aux yeux des Britanniques. On était tout seul, on défendait la démocratie, on défendait l'Europe face à l'Allemagne nazie. Donc, il y a toujours ces références à la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, le mot nazi apparaît dans cette lutte antifasciste au Royaume-Uni, tandis qu'en France, oui, c'est vraiment le mot fasciste qui est mis en avant.
Alors oui, il y a eu assez rapidement quand même des mouvements néo-nazis dans les années 80, même dans les scènes contre-culturelles, mais pour le coup, c'est une lutte antifasciste parce que c'est un souvenir. Une lutte traditionnelle antifasciste, comme vous avez dit, des syndicats qui vont se concentrer là-dessus. Et il y a quand même, au moment des années 80, on va avoir quand même des mouvements néo-nazis aussi, pas seulement des groupes qui sont nationalistes français, révolutionnaires, on a aussi des groupes néo-nazis, on a des groupes musicaux comme Légion 88 qui vont fantasmer l'Allemagne d'Hitler et qui vont essayer de le porter dans la contre-culture et de le porter aux gens.
Ça veut dire que au même moment où les punks portent une culture et notamment par la musique antifasciste, nous avons des mouvements fascistes qui œuvrent de la même manière par la musique.
C'est ça. Alors il faut voir qu'il y a une scène punk qui est pas forcément très très politisée au début des années 80 et surtout un mouvement skinhead qui est très peu orienté à gauche, voire pas du tout. Et donc on a des bandes de skin qui vont être un peu aussi des reflets de la société française, qui vont être des personnes qui vont être vont porter la xénophobie, le racisme en eux, et qui du coup il y a ces bandes de skinheads d'extrême droite qui vont apparaître, et donc face à ces bandes il va y avoir une réaction, et je pense que du côté de la scène punk et skinhead, c'est le volet antifasciste est vraiment en réaction plus que en répétition des structures qui existaient déjà.
Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Redskins et Punk, les bandes sont antifascistes. Évidemment, nous n'évitons pas le clash. Clash, What Riot en 1977. Alors ça réveille. Ça fait du bien d'un coup. Avec Jeremy Tumner, ces Clash, figure incontournable hein, de l'histoire qui nous intéresse. Il va falloir peut-être définir les mots parce que même pour moi, j'en ai besoin. Donc nous avons des punks. Mouvement politisé dès le départ? Non. Hein.
Non, pas du tout. En fait, au départ, c'était pas du tout un mouvement politisé. C'est un mouvement qui était ni de droite ni de gauche. Par contre, ce qui a changé les choses, c'est la création de Rock Against Racism, Rock contre le racisme, en fin 76. Et donc là, c'est un mouvement qui contribue à politiser la scène punk, enfin une partie de la scène punk de l'époque. Donc là, ce mouvement est très novateur. C'est la première fois qu'un mouvement essaie d'organiser systématiquement des concerts de soutien un peu partout dans le pays. Et entre 76 et 79, il y a à peu près 300 concerts qui sont organisés dans tout le pays, des concerts locaux, aussi des carnavals nationaux. Il y a deux grands carnavals en 78, en avril et en septembre. Et justement, les Clash ont joué au premier carnaval d'avril 78. Et effectivement, ils ont joué ce morceau, White Riot. Donc là, ça, c'est un morceau intéressant.
Émeute blanche.
Émeute blanche. Oui. Et l'extrême droite avait essayé de récupérer ce morceau. Émeute blanche. On pouvait penser qu'il s'agissait d'une émeute blanche contre les Noirs. Mais en fait, deux des membres des Clash avaient assisté au carnaval afro-caribéen de Londres l'année précédente. Ils avaient vu des jeunes Noirs qui se battaient avec la police. Donc ils s'étaient dit, si les Blancs faisaient pareil, si nous on faisait comme les jeunes Noirs. Donc d'où le titre de la chanson, Émeute blanche, on veut une émeute blanche. Et donc lors du carnaval de Rock Against Racism de 78, ils ont joué ce morceau avec le chanteur du groupe Sham 69. Et ça avait une portée symbolique assez importante parce que parmi les fans de Sham 69, il y avait pas mal de fascistes, pas mal de sympathisants néo-nazis. Donc pendant les concerts de Sham 69, on voyait des jeunes, enfin des dizaines, voire des centaines de jeunes qui faisaient le salut nazi et qui scandaient Sieg Heil. Donc, le punk, c'est un phénomène assez complexe. Il y avait des punks qui étaient plutôt proches de la gauche. Il y avait quand même une petite minorité qui était plutôt proche de l'extrême droite.
Raphaël Beaufils, vous avez utilisé le terme de skinhead. Alors, qui sont les skinheads ?
Alors pour ce qui est de l'Angleterre, donc le mouvement skinhead, c'est un mouvement qui est autour d'un durcissement, on va dire, du mouvement punk. C'est un mouvement qui est autour de la musique oi, donc pour une contraction de AU. Donc déjà rien que dans le nom, c'est un appel plutôt à la bagarre. Mais donc c'est un mouvement qui se veut différent, qui revendique une identité ouvrière, qui revendique de, même si on est ouvrier, de s'habiller proprement, de faire attention à soi, d'être en bande de copains, d'être en bande de la même classe. Et donc en Angleterre, mais aussi quand ça va s'importer en France, ça va créer des homosociabilités de classe dans des petites bandes. Et puis plus tard encore des groupes, mais on va en effet avoir des festivals où des festivals pleins d'ambiguïté, justement des festivals comme KO en France, ça va être des festivals où on va avoir des punks qui sont quand même plutôt intéressés par les idées libertaires, les idées anarchistes, et des bandes de skinheads d'extrême droite qui vont commencer à se former. Et donc il y a cette ambiguïté de la scène punk à ce moment-là.
Avec des punks qui veulent provoquer par leur tenue, alors on le sait bien, et puis leur coiffure aussi, hein, la crête de couleur, ça a marqué quand même ça. Hein. C'est quelque chose qui revenait, les piercings, enfin plein de choses. Pour les skinheads, c'est le crâne rasé, le bombers?
C'est ça, c'est totalement un import, c'est quelque chose qu'on se tourne vers l'Angleterre, ça nous intéresse, on le porte. Et donc c'est clairement plutôt le crâne rasé, le bombers, les bottes en cuir, les docks montantes, et donc une esthétique un peu plus propre, un peu plus disciplinée, on va dire, que celle des punks.
Ouais, les Doc Martens, bien sûr, Jeremy Tumner.
Oui, c'est intéressant. Le mouvement skinhead, c'est un mouvement intéressant, assez contradictoire à certaines idées. Au Royaume-Uni, c'est un mouvement qui naît à la fin des années 60 Et c'est un moment où l'industrie commence à décliner un petit peu. Et ils adoptent un look prolétaire, ou peut-être exagérément prolétaire, dans un contexte très, très particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils écoutent souvent, enfin au moment-là en tout cas, ils écoutent souvent la musique antillaise. Donc ils adorent la musique antillaise, ils adorent le ska, le reggae. Et plus tard, dans les années 70, il y a une radicalisation à l'extrême droite. Et donc c'est un mouvement qui est un peu schizophrène à certains égards. Donc l'amour de la musique noire, mais en même temps l'hostilité aux immigrés, aux minorités ethniques.
Oui, puis il faut toujours se méfier, on le sait bien, des assimilations, ou en tout cas des mises en concordance, parce que on va dire, ah ben lui, il a le crâne rasé, un bomber, donc c'est un raciste, un fasciste, alors que non, peut-être pas, c'est peut-être juste le hasard. Mais vous savez, parfois, il y a plein de hasards, on imagine des choses, et puis tout compte fait, non.
Vos affiches, par leur graphisme, par leur slogan, ressemblent à celles du MSI, des néofascistes italiens. Que faut-il en déduire?
Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie, dans la mesure où ils constituent une force capable de s'opposer à la montée du communisme. Mais personnellement, je n'ai aucun contact, pour l'instant en tout cas, avec les dirigeants du MSI.
Jean-Marie Le Pen, en 1972, bon, le graphisme, le slogan était joli, oh, les a repris, mais pas de lien avec le mouvement fasciste italien, Raphaël Beaufils. Dans ces années 1970, les mouvements d'extrême droite se structurent en France aussi à la suite de ce que vous nous avez dit à la fin des années 60, des tentatives. Mais là, on voit dans le champ politique, et cette archive en a un exemple, apparaître des figures qui, par le passé, pouvaient être en marge, qui avaient surgi dans les années 1950, parfois, ici et là. Mais là, il y a, et c'est vous qui allez me répondre, hein, mais peut-être un sentiment aussi de besoin d'action de la part de certaines personnes.
Ah, il y a un sentiment de besoin d'action, il y a deux volets. Il y a un volet un peu plus électoraliste. Alors il y avait déjà, dans les années 60, une tentative avec Tixier Vignancourt, une campagne qui avait été menée déjà par Jean-Marie Le Pen, hein, qui ne sort pas de nulle part. Et puis après, dans les années 70 puis 80, une vraie volonté électoraliste de l'extrême droite française, qui va aussi utiliser et avoir à ses côtés une extrême droite plutôt de rue, une extrême droite plus violente. Donc là, plutôt des groupes comme le groupe Union Défense, le GUD, voilà, ces groupes-là.
Voilà, parce que cela, c'est vrai que quand on dit le GUD, on parle des skinheads, bien sûr, nous nous projetons dans des passés. Je pense que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices ont ce souvenir-là aussi, ou pour les plus jeunes, la crainte de croiser une bande en se disant, bah tiens, je suis passé ici au mauvais moment. Dans cette histoire apparaissent les Redskins. Qui sont-ils, Jérémy Tramner?
En fait, c'est plutôt un phénomène français, j'ai l'impression.
Vous n'en avez pas, vous, du côté du Royaume-Uni?
Ah bah, il y en a. Oui, il y en a. Mais je pense que c'est avant tout un phénomène français.
Raphaël Beaufils.
Oui, c'est ça. C'est vrai que si on a des groupes skinhead de gauche et qui portent des valeurs antifascistes en Angleterre, je pense à The Oppressed, par exemple, qui est un groupe très important aussi pour les Redskins français. Mais c'est en France où il va y avoir, en fait, donc dans ces festivals dont je parlais, par exemple, en France, on va avoir des skinheads d'extrême droite qui vont s'attaquer aux punks. Et donc ces jeunes punks qui sont habitués à rester soudés, à rester en bande, ils vont se dire, on va pas se laisser faire. C'est des personnes qui ont, faut voir que la scène punk de l'époque, elle a aucun rapport avec la scène actuelle. C'est une scène d'un prolétariat de la galère ou d'un prolétariat plus traditionnel ouvrier des grandes banlieues et des grandes villes ouvrières françaises. Et du coup, ce sont des jeunes qui vont pas se laisser faire et qui vont, pour certains, s'identifier à la culture britannique skinhead parce qu'ils sont eux-mêmes prolétaires, parce qu'ils sont eux-mêmes galériens précaires, et donc ils vont s'approprier cette esthétique skinhead et former les débuts, alors il faut voir que début 80, La majorité des skins portent plutôt une idéologie FAF, donc franco-français. Rares sont les Redskins. Et après, un mouvement qui va plus se structurer et qui va apparaître vraiment en réaction. Et aussi pour se dire qu'on ne laissera pas notre scène et notre rue, les deux endroits où on traîne, à l'extrême droite.
Ils ne nous facilitent pas la vie, hein, parce que là aussi, quand nous les croisons dans la rue, Redskins et skins ont la même apparence.
C'est ça, voilà, à quelque chose près, parce que justement, très tôt, s'est posé la question de porter ses couleurs, comme on dit, c'est-à-dire de porter sur soi son signe d'appartenance à l'antifascisme, à l'antiracisme, à l'extrême gauche. Pour ces bandes de jeunes qui se forment, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Déjà parce que être ouvertement skinhead ou punk de gauche dans la rue, c'est déjà compliqué vis-à-vis de la police. Et alors, si ça devient en plus compliqué vis-à-vis de ces bandes d'extrême droite qui peuvent s'attaquer à nous, il va falloir le porter. Donc c'est presque un appel au lynchage, mais beaucoup vont l'assumer et vont... Alors il y a toute une mythologie qui se forme, le bomber se retourner, mais en tout cas, on s'approprie l'esthétique skinhead. Et avec la mythologie, il y a toutes ces idées de comment on s'habille quand on est un jeune précaire et qu'on veut s'habiller propre skinhead, certainement pas en faisant du shopping aux halles, mais plutôt en allant prendre simplement là où c'est-à-dire sur les skinheads d'extrême droite, aller prendre un bomber, aller prendre une paire de chaussures, et voilà, on est habillé.
Voilà. On va leur prendre leurs vêtements pour se les approprier, retourner le bomber éventuellement, et c'est alors que se construit cette opposition Redskins et skinhead.
On est une bande de chasseurs, on est une bande de chasseurs contre le mouvement, un mouvement que tout le monde connaît parce qu'il y a une pub infernale autour de ce mouvement, c'était le mouvement skinhead. Nous, on ne supporte pas qu'il y ait de la xénophobie en France ou dans le monde, et on est contre le racisme en général. Alors ici, on est dans le métro, on commence à chasser, et si jamais on rencontre des skins, on leur rentre dedans.
On les confond souvent avec les skinheads, ce sont les Redskins. Au début, skin communiste, aujourd'hui, un mouvement antiraciste.
Redskin, ouais, c'est un mouvement qui arrive largement après les skinheads, contre les skins, les faf et tout ce qui touche autour. Et on est antiraciste et antifasciste. On est arrivé largement après eux parce qu'on a commencé, on a vu qu'ils abusaient, quoi, qu'ils commençaient à taper les maghrébins et tout ça. Et nous, on est contre tout ce qu'ils font. Un skin, c'est dangereux avec ses copains. Ouais.
Redskin est le mouvement le plus organisé. On les retrouve à la tête de grandes manifestations comme celle de la CGT ou de la CFDT. Ils forment aussi de véritables commandos pour attaquer tout rassemblement d'extrême droite.
Nous sommes un groupe lié par le lien d'amitié. Nous cassons, nous brisons le fascisme. Sans pitié, sans remords, on les lynche. Dans la rue ou bien dans les métros, aucune frontière sera brisée par nous. Aucune. Je te le dis, mon gars, on assure à la mort. Sans pitié, sans remords, on attaque. Et je peux te dire, mon gars, qu'on assure très très fort. Du Kid-Boy t'entendra parler depuis très longtemps à New York ou bien à San Francisco, mon gars. Tu verras toujours l'insigne du Kid-Boy que tu vois ici devant tes yeux, ok?
Nous étions sur Antenne 2 en 1980 avec ces Redskins. Raphaël Beaufils, il y a l'évocation. Alors d'ailleurs, je trouve ça très joli de le mettre ainsi comme l'histoire. Il raconte sa propre histoire, à quel moment nous sommes nés. C'est-à-dire que ces Redskins ont conscience de leur positionnement ici dans une histoire de l'antifascisme.
Oui, tout à fait. Et puis ils ont aussi simplement une conscience, je pense, une conscience de classe et une conscience aussi d'appartenir à une classe qui est en grande partie racisée, qui est la cible de l'extrême droite. Et donc il y a vraiment cette réaction, cette nécessité de s'organiser, parce que quand on à l'époque, donc ces bandes qui sont parfois des bandes de rockers, parfois des bandes de punk, parfois des bandes qui traînent déjà ensemble, en fait, quand on lit le journal au bistrot, quand on écoute les ragots du coin, on entend parler de ces attaques racistes dans la société française qui a vraiment ce problème-là. Et donc, il y a cette nécessité de s'organiser. Il faut voir que des jeunes de quartier populaire qui s'organisent ensemble, ils vont toujours avoir un copain qui fait un sport de combat, un copain qui traîne pas mal dans la rue, dans la scène alternative. Et donc, du coup, ces personnes vont s'organiser vraiment en réaction, parce qu'elles sont elles-mêmes la cible ou leurs copains sont la cible, et leur famille, leur mère, leur père, leur frère, leur sœur sont la cible de l'extrême droite.
Je pense que c'est la même chose du point de vue social au Royaume-Uni, peut-être avec des différences, mais Jeremy Tamner, vous nous avez dit que le système politique n'étant pas le même, l'accès à l'extrême droite au pouvoir est plus difficile et que le parti, le National Front, fondé en 1967, n'avait pas réussi parce que c'est un système politique qui ne le permet pas. Est-ce qu'on assiste dans ces années-là au Royaume-Uni à ce que nous voyons en France, c'est-à-dire une extrême droite qui se structure et qui souhaite gagner son combat par les urnes?
Alors effectivement, le Front National, enfin le National Front, présente des candidats, de plus en plus de candidats aux élections législatives dans les années 70. Ceci dit, ça coûte assez cher. Il n'y a pas forcément de candidats d'extrême droite partout. Si je me souviens bien, en 79, il y avait à peu près 300 candidats d'extrême droite sur 650 circonscriptions. Donc ils ne sont pas forcément partout. Mais les élections législatives de 79 sont assez intéressantes, assez révélatrices à cet égard. C'est Margaret Thatcher qui a remporté ces élections. Et pour le Front National, c'était une défaite politique très importante. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas rivaliser avec le Parti conservateur qui avait connu un virement à droite sous la direction de Margaret Thatcher. Donc en un sens, ces élections révèlent un peu l'impuissance du Front National dans ce système politique britannique. Mais en même temps, la Ligue anti-nazie, Rock contre racisme, joue un rôle assez important aussi. Ils affaiblissent la position du Front National parmi les jeunes. Aussi. Donc, le Front National est un petit peu coincé entre le Parti conservateur de Margaret Thatcher et puis entre les mouvements antifascistes qui mobilisent les jeunes contre lui.
Oui, parce qu'on parle de violence, alors des antifascistes contre les fascistes, des fascistes contre les antifascistes, et puis il y a cette violence sociale, vous évoquez Margaret Thatcher. Nous sommes quand même dans une période, après ce qu'on appelle les chocs pétroliers, qui fait que la société connaît un chaos et vraiment profond des phénomènes migratoires. On ne peut pas, Raphaël Beaufils, ne regarder que ces mouvements-là, les Redskins, les punks. Alors du point de vue musical, c'est formidable parce que ça nous permet d'avoir un panorama sur la société. Mais tout est à prendre en compte pour les comprendre.
Oui, évidemment, ces mouvements rock alternatif puis punk sont assez symptomatiques de la société française. Alors même les mouvements antiracistes dont on parle là, c'est symptomatique d'une réaction à un racisme qui dépasse largement les skinheads d'extrême droite, qui sont voilà, c'est pas non plus à tous les coins de rue une bande de skins qui peut frapper. C'est plutôt un racisme qui est répandu dans la société, un souvenir de l'Algérie française qui fait encore fantasmer l'extrême droite. Et une répression des mouvements, des mouvements d'anciens combattants, des mouvements antiracistes, qui est vraiment importante. Et à côté de ça, pour la jeunesse, quelle solution? Le chômage, la précarité. Donc pour ça, il faut réagir en s'exprimant. Et donc la contre-culture, c'est aussi ça. C'est comme en Angleterre, il y a ce côté de bataille culturelle, de bataille hégémonique de l'antifascisme, qui vont même pas essayer de draguer les jeunes, c'est simplement qu'ils vont faire une contre-culture musicale autour de l'antifascisme. Et en France, bon, ça va arriver un peu plus tard, du coup ça va arriver plutôt vers la fin 80, les années 90, mais il va y avoir aussi ça, avec une réaction d'une jeunesse précaire qui va lutter pour le droit au logement et contre la précarité des jeunes à travers cette scène aussi.
Oui, parce que le fascisme, c'est quelque chose de compliqué, on le sait bien, il y a des mouvement fasciste avec des gens qui sont porteurs d'idées qui, par la suite, se répandent dans la société. C'est ce racisme que vous venez d'évoquer, Raphaël Beaufils, par exemple, ce racisme que l'on retrouve aussi au Royaume-Uni.
Melky, je le jure devant Dieu, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Et je déconne pas là, mec, non, je déconne pas. Parce que j'ai une question à te poser, et c'est est-ce que tu te considères comme anglais ou jamaïcain ?
Le cours de l'histoire.
Anglais. Super, je t'adore pour ça. C'est génial, putain. Je suis fier de toi, mec. Prenez-en de la graine. Hein. Ça, c'est un mec qu'on a, lui. C'est de ça que cette nation a le plus besoin. De putains de guerriers. Ça fait 2000 ans que cette ridicule, cette toute petite île, elle est passée à tabac et elle est pillée par plein de mecs qui sont venus parce qu'ils voulaient leur part du gâteau. Et pendant les deux putains de guerres mondiales, il y a des mecs qui ont donné leur vie. Et pourquoi ? Pour qu'on puisse planter notre putain de drapeau dans la terre et dire « Ouais, ça, c'est l'Angleterre ». Et pourquoi ? pour qu'on puisse juste ouvrir les putains de vannes et qu'on les laisse tous se pointer ici, qu'on leur dise « Ouais, je t'en prie, débarque, descends de ton bateau, t'as fait un bon voyage, ouais, pas trop dur, j'espère, tiens, mets-toi dans ce coin et fais-y un magasin, stop, et t'y mettras aussi une église à côté, pour que tu puisses suivre ta religion et faire tout ce que tu veux. » Alors qu'il y a des familles, putain, dehors, là, qui galèrent pour un putain d'appart, et que les apparts, on les file à eux. Alors je vais vous le dire, les mecs, moi je vous le dis pour que ça rentre dans vos putains de crânes. On file les apparts à ces enfoirés de paquis. Il y a plus de 3 millions de chômeurs dans ce pays. Et la Thatcher, elle reste dans sa putain de tour d'ivoire. Alors que nous, il faut qu'on se fasse tuer au front. Les Malouines. Les putains de Malouines. Mais c'est quoi ces Malouines de merde?
This is England, c'est le film de Shane Meadows en 2006 avec l'histoire de ces skinheads. La scène se passe en 1983. Jeremy Cranmer, l'histoire du fascisme, c'est une histoire aussi de définition. Et d'ailleurs, dans les émissions que le cours de l'histoire a consacrées au fascisme, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France, on a vu l'évolution du mot, hein, de siamo tutti antifascisti, le fascisme en Italie dans les années 20. Bah là, on voit ce que c'est en Italie. Puis, ça prend une ampleur européenne. No pas Sarane dès les années 30. Et fasciste, tous ces mouvements totalitaires. Et quand on regarde ce qui se passe après, au moment de la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que le mot est même utilisé par des communistes pour désigner toute forme d'ennemi, même capitaliste. Ici, nous sommes dans les années 1980. L'ennemi n'est plus le communiste, d'ailleurs, pour ces fascistes. On entend ici, hein, le racisme, c'est inhérent au fascisme de ces années-là.
Oui, bah, l'ennemi, c'est les minorités ethniques, c'est même Thatcher, c'est l'évolution de la société britannique de l'époque. En fait, il y a plusieurs ennemis pour l'extrême droite au moment-là. Et au début des années 80, justement, les skinheads d'extrême droite sont très présents dans les concerts. Il y a énormément de problèmes de violence dans les concerts, et surtout les concerts de ska. Cette musique que les skinheads adorent, même si souvent les musiciens sont noirs, il y a pas beaucoup de noirs parmi les musiciens. Dans les concerts au début des années 80, les skinheads de droite sont très très présents. Il y a beaucoup d'incidents, il y a beaucoup de bagarres qui éclatent au moment là.
Quelles sont les actions d'ailleurs de ces groupes? Là aussi c'est bien compliqué, je dis groupes, mais ce ne sont pas que des groupes de musique. On sent qu'il y a des phénomènes de bande et des phénomènes d'identification très vastes. Ce n'est pas que par la musique et par des festivals ou des concerts. Il y a d'autres actions, Raphaël Beaufils?
Oui, évidemment. Après, il y a différentes actions. Alors finalement, ces jeunesses, elles s'engagent dans l'antifascisme, comme j'ai dit, par réaction en France. En tout cas, moi, je parle du côté français. Elles réagissent à l'extrême droite. Et donc, du coup, pour réagir à l'extrême droite, on va aller chercher l'extrême droite là où elle frappe. Là où frappe l'extrême droite violente, c'est dans la rue. Lors de collages pour le Front National, qui finance des petites bandes, leur donner une petite camionnette, de la colle. Et t'as une soirée pour aller coller des affiches pour le Front National. Ils vont en profiter pour s'attaquer à des personnes isolées, et du coup ces jeunes qui vont voir ça arriver dans la société, qui vont voir en plus ils savent très bien que c'est des jeunes qui ont grandi avec la répression policière du quotidien, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire c'est des jeunes racisés de quartiers populaires, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'en remettre à la police, et donc du coup ils vont prendre en main le fait de s'attaquer à l'extrême droite dans leur scène, mais aussi dans la rue, simplement par autodéfense populaire.
Autodéfense populaire, on a la même chose du côté du Royaume-Uni, au-delà du concert?
Un peu, oui, quand même. Donc, il y a des évolutions assez importantes dans les années 80. En 1981-82, la Ligue anti-nazie et Rock contre le racisme cessent d'exister. Et donc, pour eux, ils ont gagné. Parce que le Front National a perdu les élections de 79.
Le Front National du Royaume-Uni National.
Du Royaume-Uni, pardon, le National Front, oui. Et donc, la Ligue anti-nazie, Rock contre le racisme, cesse d'exister. Ceci dit, il y a certains militants qui souhaitent poursuivre le combat contre les groupuscules d'extrême droite. Ces groupuscules violents qui sont souvent présents dans les concerts et dans la rue. Donc, il y a un nouveau mouvement qui voit le jour en 84, Red Action, Action Rouge, qui crée l'année suivante Antifascist Action, Action Antifasciste. Au départ, c'est un mouvement assez large, qui cherche à mener une lutte politique, idéologique et physique contre l'extrême droite. Et avec les années qui passent, ils commencent à mettre l'accent de plus en plus sur les actions physiques contre l'extrême droite. Donc, à partir des années 88, il y a beaucoup d'actions antifascistes très, très dures contre l'extrême droite. Donc ils cherchent à perturber les réunions publiques, les manifestations, etc.
Et en France, en 1984, justement, apparaît, et on le voit sur les murs, alors du côté de Toulouse au début, et puis après un peu partout, Scalp, la section carrément anti-Le Pen.
Créée en réaction à la montée du Front National, la Scalp, section carrément anti-Le Pen, fait des émules en Franche-Comté. Un jeune sympathisant de ce mouvement punk est sur le point de créer une antenne locale à Besançon. Portrait Patrick Waters, Jean-Marie Bavrel.
Bienvenue en banlieue rouge!
L'univers de Kohamu, 19 ans, c'est un réduit de 3 mètres sur 5, entièrement tapissé de plastique noir. Noir pour l'anarchie, car c'est ici qu'il prépare la guerre civile, l'insurrection contre des dirigeants et un système auquel il ne croit plus. Kohamu est aussi végétarien, mais surtout adhérent au groupe Scalp, un mouvement punk antifasciste.
Ouais, ça fait 5 ans que je suis comme ça. J'ai choisi de prendre une voie différente au sein d'un système conformiste et uniformisé. Pour montrer que il y avait d'autres alternatives que de succomber à la culture commerciale, à la mode aussi, parce qu'on suit pas la mode, nous, on crache dessus, quoi.
Kohamu lutte contre la société commerciale en collant des affiches du Scalp qu'il paye lui-même. Il rédige aussi un journal pour répandre les idées et la musique Redskin, journal distribué dans les bars branchés de la ville. Mais Kohamu n'exclut pas pour autant d'autres voies pour l'avenir. Il prépare à Besançon un IUT de publicité.
On n'est pas dans ce système actuel. Mais faut bien gagner sa croûte, quoi.
Bah oui, tout simplement. Nous étions sur FR3 en 1992. Raphaël Beaufy, ça vous fait rigoler, je l'ai vu, parce qu'il y a quand même un portrait ici un peu archétypé de l'adhérent à la section carrément anti-Le Pen.
Oh oui, évidemment. Après, c'est vrai que voilà, on a toujours des clichés à l'intérieur des militants, évidemment, et des militants historiques. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est quelque chose qui n'est pas seulement parisien, je trouve. C'est de dire que ça se passe aussi ailleurs, ça se passe partout, en fait, partout où il y a d'une part la précarité, il y a de l'anticapitalisme, et partout où il y a des militants d'extrême droite, il y a une réponse antifasciste, antiraciste, notamment de la part de personnes de quartiers populaires, d'où bienvenue en banlieue rouge. Et après, il peut y avoir évidemment des gens. Alors, il faut évidemment des graphistes. Donc, il y a des gens qui sont dans la publicité, etc. Mais le Scalp, c'est vraiment un mouvement qui est très important à ce moment-là pour une forme de restructuration de l'antifascisme, de l'antiracisme, et puis qui plus tard va se muter dans le réseau No Pasaran. Avec toujours des références au début du siècle.
Ah oui, mais énormément de références historiques, on l'entend bien ici, et puis toujours cette bande-son, parce que vraiment c'est le fil conducteur de ce qui unit ou ce qui divise d'ailleurs ces mouvements, parce qu'on l'entend bien, il y a parfois des choix radicaux, politiquement différents, mais qui se rejoignent sur la musique. Jérémy Trahner, toujours saturé quand même, hein, on l'entend bien ici, c'est pas de la musette.
Non, c'est sûr. Et même Action antifasciste, dont je parlais il y a 2 minutes, elle a lancé un mouvement musical à la fin des années 80, Cable Street Beat. Et le nom est assez révélateur, Cable Street, donc le nom de la grande manifestation de 1935, donc la référence aux années à la lutte antifasciste des années 30. Et Cable Street Beat a organisé des concerts avec des groupes Oi, avec des groupes Ska, et même avec des DJ dans les années 90. Donc la musique reste importante pour le mouvement antifasciste, et il y a aussi en même temps des mouvements musicaux d'extrême droite aussi, une scène néo-nazie qui voit le jour dans les années 80, vers la fin des années 80, Blood and Honor, sang et honneur, donc un mouvement ouvertement néo-nazi. Et Action antifasciste mène des actions contre ce mouvement. Et en 1992, Blood and Honor cherche à organiser un grand concert dans la banlieue de Londres. Et il y a des militants d'extrême droite qui viennent de toute l'Europe. Et ils ont comme lieu de rencontre la gare de Waterloo à Londres. Et les antifascistes les attendent. Il y a des bagarres qui éclatent, des affrontements assez violents, et la gare doit être fermée pendant plusieurs heures.
Ah oui, à ce moment-là, oui, oui, c'est des affrontements là qui marquent alors les esprits parce que ils peuvent être véhiculés par les actualités, ce qui d'ailleurs crée des craintes parce que, et on l'a entendu depuis le début de cette émission, il y a une approche particulière sans bien connaître ce qui se passe, mais parce que là aussi c'est très difficile à saisir, hein. Nous voyons bien que pour identifier qui est qui dans ces mouvements-là, il y a des lieux qui sont spécifiques parce qu'on parle de festivals, on parle de concerts, mais il y a cette vie plus quotidienne aussi.
Oui, la vie quotidienne des punks et des redskins antifascistes à cette époque-là, c'est une vie aussi des squats. Je pense que les squats, c'est quelque chose qui est à noter, qui est très important à ce moment-là. Les squats qui sont le fait parfois de squats d'artistes, de collectifs d'artistes, comme c'était le cas du squat de l'usine de Palikao à Belleville, donc celui de Berruyer Noir, plutôt, Lucrat Milk, etc. Et après, il y a d'autres squats qui peuvent être aussi le fait de l'autonomie française qui a été donc inspirée par l'Italie, qui a été très forte quand même plutôt fin 70, années 80. Et donc, ces squats sont des lieux d'organisation, c'est des lieux de concert aussi, c'est des lieux où on diffuse aussi des brochures, des fanzines, des choses comme ça. Et donc, au-delà des salles de concert et des festivals, il y a aussi les endroits où on se retrouve, parce qu'on parle de bandes de copains avant tout. Donc, c'est la rue où on se retrouve par nécessité économique. Et aussi le bistrot où on se retrouve. Donc, c'est tout ça, c'est ces lieux de sociabilité très importants pour faire corps.
Et puis, il y a l'observation de ce qui se passe dans la société, et notamment la vie politique de la société au moment des élections et des surprises électorales. Et dès lors, ces groupes de musique s'en saisissent.
Jeunesse immigrée, solidarité, la jeunesse en mer, merci.
Ah, merci. En novembre 1989, à l'Olympia, Berruyer Noir. Dites-nous, Raphaël Beaufils, dans quel contexte apparaît ce qui est devenu par la suite un slogan ?
C'est dans un contexte où, comme je disais, l'extrême droite et le Front National va tenter une percée électorale, va tenter par une forme de populisme, donc en effet parler d'une immigration qui volerait un travail, etc. Bon, ce genre de fable. Et donc en réaction, on va avoir tout ce contexte, tout ce bouillon de rock alternatif et puis de punk qui va s'activer. Et donc dans ces squats, dans ces lieux, donc il y a d'une part des collectifs d'artistes, et puis il faut voir que des concerts comme celui-ci qu'on a entendu, c'est des concerts où il y a aussi un service d'ordre qui est préparé pour protéger le concert, pour que se reproduisent pas les concerts des années précédentes où il y avait des skins d'extrême droite et où ils sont pas la bienvenue. Et donc on a des services d'ordre qui se créent un peu comme ça peut se faire dans le milieu syndical, qui sont composés en partie de ces chasseurs des années 80, de ces bandes de militants un peu plus endurcis qui comprennent, parce qu'ils aiment eux-mêmes cette musique, mais parce qu'ils comprennent l'intérêt de cette lutte culturelle aussi que vont porter ces groupes comme Berruyer Noir et d'autres.
Oui, on a des mouvements similaires au sens où au Royaume-Uni, la préoccupation demeure parce que la période Thatcher est là. Et puis, les gens changent, hein, faut pas l'oublier, parce que quand on est Redskin et qu'on a 20 ans, c'est pas la même chose après quand on a 40. Hein, et y a des nouvelles générations, il y a la relève. Le mouvement se poursuit par la suite en s'appuyant sur ce qui s'est passé auparavant dans l'antifascisme.
Au Royaume-Uni, oui, un petit peu quand même. Ceci dit, c'est vrai que dans les années 80, il y a d'autres combats. Les militants ont tendance à se focaliser plus sur le combat contre le chômage, contre la la politique de Thatcher, pour faire court. Donc, le combat antifasciste est peut-être moins central pour certains militants. Donc, il y a quand même des changements assez importants au cours des années 80. Ceci dit, après, dans les années 90, il y a encore des militants antifascistes qui continuent à lutter contre des petites formations d'extrême droite. Il y a aussi des concerts antifascistes qui sont organisés dans les années 90 et même après. Donc, c'est un combat qui continue, mais qui est moins central pour certains que dans les années 70, au début des années 80.
Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que ces groupes de musique ont fait œuvre de pédagogie? C'est-à-dire qu'ils ont participé à une éducation pour lutter contre le fascisme. Je me rappelle, hein, nos démocraties, et peu importe l'orientation politique, de droite ou de gauche, s'appuient sur le combat contre le fascisme. Est-ce qu'ils ont fait preuve, voilà, de pédagogie?
Oui, à certains égards, oui. Je pense que dans les années 70, au début des années 80, au Royaume-Uni, il y avait des jeunes qui étaient tentés par le Front National, tentés par l'extrême droite. Et grâce à Rock contre racisme, grâce à ce type de mouvement, ils ont pris un autre chemin. Donc, je pense que ça, c'est important. Et certains jeunes ont dû écouter les paroles, on se dit, mais non, mais finalement, l'extrême droite, c'est pas mon truc. Enfin, donc, je pense que oui, effectivement, ils ont fait preuve d'une pédagogie dans une certaine mesure.
Raphaël Beaufils, pour la France, c'est le cas aussi, l'évolution, elle est là. Et comme on sent beaucoup que ça s'appuie sur des formes musicales, on sait bien que ces formes musicales évoluent au sens où elles sont plus ou moins à la mode. Et dans les années 1990, dès lors, on voit apparaître le rap, hein, qui prend de plus en plus de place. Est-ce qu'une continuité est à écrire ici?
Ah oui, tout à fait. Dans les années 90, puis 2000, il y a vraiment une continuité de la contre-culture antifasciste, notamment Redskin, mais aussi punk. Il y a des grands mouvements Redskin, donc dans toutes les villes, enfin dans plein de villes, en tout cas des grandes villes, il y a des rash, c'est-à-dire des bandes qui se structurent en organisant des concerts, donc des groupes politisés autour de la scène skin qui vont organiser des concerts et continuer ça. Il y a aussi un grand mouvement anarcho-punk dans les années 90 et 2000, et ça va continuer jusque dans les années 2000 et puis même aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va s'intensifier. Il y a toujours plus de groupes qui vont apparaître, la Brigade à Flores Magón, Eyoka, des groupes comme ça qui vont être très importants pour cette fois, en fait, finalement, c'est les gens qui étaient des petits jeunes dans les années 80 qui vont former leur groupe dans les années 90. Et il y a des figures tutélaires comme Julien Terzic, par exemple, qu'on peut entendre qui était chasseur dans les années 80, qui devient secrétaire confédéral de la CNT, qui organise des concerts, des entraînements de boxe aussi à la CNT pour le milieu antifasciste, et qui rejoint un groupe comme la Brigade à Flores Magón. Donc tout ça évolue, il y a une certaine continuité.
Cette Brigade à Flores Magón, ça évoque Ricardo Flores Magón, figure de l'anarchisme. Donc toujours ces références historiques dans l'histoire qui nous intéresse ici. Pour terminer, qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas que de la nostalgie? Et ce serait peut-être le piège, quand on entend les Berruriers Noirs, on se dit « Ah, nostalgie, ça me rappelle des choses ». Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est la continuité qu'il faut peut-être mettre en avant, Jérémy Tramner.
Oui, effectivement. Actuellement, il y a un mouvement musical, Love Music, Hate Racism, donc aimer la musique, détester le racisme, haïr le racisme, qui organise des concerts, donc qui existe depuis 2002, si je me souviens bien. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était un slogan de rock contre le racisme dans les années 70. Donc, encore une fois, il y a un lien direct entre les années 70 et ce mouvement qui existe encore de nos jours. Mais c'est un mouvement qui ne se focalise pas sur le punk, mais qui cherche à attirer des musiciens plus mainstream. Même Ed Sheeran a participé à un concert, a exprimé son soutien pour Love Music, Hate Racism.
Bon, bah, dès lors, on est bon. S'il y a Ed Sheeran dans la partie, merci vivement à tous les deux, Jérémy Tamner, Raphaël Beaufils, d'être intervenu dans cette série du cours de l'histoire consacrée à l'histoire de l'antifascisme. Siamo tutti antifascisti, no passaran. Cette série est à écouter, à podcaster en ligne sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'appli Radio France. Et le champ lexical est riche, hein. Fasciste, faf, ou encore peste brune.
Ouvrier belge, ouvrier immigré, étudiant, ménagère, employé, alerte, alerte dans la cité, la peste brune s'est réveillée, alerte, alerte dans la cité, la peste brune s'est réveillée.
Défendons nos droits et nos libertés. Chant ouvrier à Liège en 1975 et dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Nicolas Leroulet, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Lalouma, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon, Tom Hundenstock et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.